Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité chaque jour du lundi au vendredi sur Africa Radio. Aujourd'hui dans le JDA, nous parlons de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. On connaît désormais les qualifiés pour les 8e de finale. Alors quels sont vos pronostics? Quel regard portez-vous sur ce premier tour? Pour participer, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Vous êtes déjà nombreux au standard. Avant cela, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour, j'appelle à propos de l'élection présidentielle en Mauritanie. Le Conseil constitutionnel a entériné le résultat de la CENI. Malheureusement, le Conseil constitutionnel, le président du Conseil, Diallo Mamadou Batia, a surtout dévoilé au grand jour la façon dont ils ont fait le bourrage, selon lui, légal, parce que c'est légal, d'après les explications qu'il a données, que ces élections sont passées d'une façon normale, parce que dans un bureau de vote, quand on trouve, par exemple, un bureau qui a 100 inscrits, quand on trouve plus de 150 votants, que c'est tout à fait normal, parce que les fonctionnaires ont sont en mission, soi-disant, entre guillemets, et qu'ils ont droit de voter dans n'importe quel bureau, là où ils se trouvent, en mission, entre guillemets. Donc, c'est vraiment hallucinant. Donc, ça démontre tout simplement que ces élections n'ont pas été transparentes, et surtout que la fraude a été complètement légalisée, entérinée par l'administration et l'autorité publique qui était chargée de gérer cette élection. Donc, je crois que c'est très dangereux de jouer à ce jeu. Et malheureusement, la décision ou les décisions du Conseil constitutionnel, injuste qu'elles soient, il n'y a pas possibilité de faire recours contre ceci. Et c'est lamentable et c'est vraiment regrettable.
Oui, Stéphanie, c'est Sonic et Facile. Là, j'appelle pour réagir à l'actualité mauritanienne. Donc là, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de rentrer. Donc là, je veux juste dire que les élections ont été volées par le système militaro-afférique seulement. Parce que là, Biram Dabed, il a gagné les élections au premier tour. Donc le représentant des militaires n'était même pas qualifié pour le second tour. Voilà, comme c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont l'économie du pays, voilà, ils se sont permis de le faire déclarer, président directement. Il n'a même pas attendu la CENI. La CENI, ce sont les amis d'Aziz et de Razouani, et le Conseil constitutionnel aussi, ils ont été nommés par les mêmes présidents et ses amis. Donc voilà.
Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mate Fayulu, finalement? Parce que Mate Fayulu a toujours revendiqué qu'il était le président élu de la RDC. Et ça, c'est tout le monde qui le sait aussi, si on voit les choses au clair. Donc, sa position devrait être fixe avec... disons, ce statut qui s'est mis, lui, et qui est, si on peut dire, un statut virtuel de chef de l'État. Donc, il commence à proposer, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait la paix, la sécurité en RDC et tout. Ben, lui, il a pris une position qui ne doit plus lui ramener en arrière, en partant proposer des choses au gouvernement de Kafi Tshisekedi pour la sortie de crise dans son pays. Là, ça veut dire qu'il reconnaît d'une manière ou d'une autre qu'il n'est pas président de ce pays et que c'est Tshisekedi qui est là parce qu'il peut décider quelque chose sans passer par Tshisekedi.
Amis du JDA, bonjour. J'appelle par rapport à l'information que je viens de recevoir sur la radio Africa, comme quoi on a bombardé un camp de réfugiés en Libye et ce sont principalement des Africains qui sont morts. On a sans le bilan des provisoires de 40 morts et ça pourrait être plus. Et là, ce que je déplore aujourd'hui, c'est le silence de nos dirigeants africains. Vos enfants sortent de la maison, vous ne les surveillez même pas. Un parent, un enfant sort, doit le surveiller, doit le chercher. Et en plus, quand vous savez où votre enfant est, vous allez vous déplacer. Vous allez envoyer les gens pour aller le récupérer, le chercher pour le ramener à la maison. Aujourd'hui, le peuple africain, surtout les jeunes, sont bloqués en Libye. Ils sont traités comme des animaux. Et les dirigeants africains sont là. Il n'y a aucune réaction. Ils ne vont même pas envoyer les ambassadeurs pour aller les chercher, des avions pour aller les chercher, pour les ramener au pays. C'est vraiment une indignation. Mais comment on peut compter sur des dirigeants de tels? Comment on peut compter sur vous, les dirigeants africains? Par contre, pour prendre les avions pour venir en Europe, aller aux États-Unis, vous êtes les premiers. Vos enfants sont en train de mourir en Afrique, là-bas. L'Union africaine. Mais c'est pas possible.
Allô, bonjour Africa Radio, Brice à l'appareil. Je remercie BBC Afrique d'avoir passé le témoignage de M. Ali Tapsuba, un représentant d'un collectif anti-intrusion de moustiques génétiquement modifiés, au Burkina Faso entre autres, et ce sera surtout le continent, hein, quand on sait que tous les organismes génétiquement modifiés se répandent dans la nature sans contrôle possible. Et voilà, encore une... Lui-même l'a qualifié de terrorisme, hein, ça vient pas de ma bouche à moi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je rappelle que des sommités, des grandes personnalités dans ce monde et qui ont des puissances incommensurables ont déclaré qu'il y avait trop de monde il y avait trop de population dans le monde et entre autres en Afrique et dont M. Bill Gates fait partie. Et là, on trouve soi-disant pour éradiquer une maladie qui tue des gens, on va trouver peut-être une solution pour pouvoir amoindrir la population en Afrique, voire l'éliminer complètement, vu que les guerres ne vont pas assez rapidement nettoyer ce continent de ses habitants, peut-être qu'on trouvera des solutions, soi-disant, pour sauver le monde, on va nettoyer le continent. Voilà, donc c'est pas de faire du complotisme que de dire ça, mais bon, voilà, je m'étonne que les Africains restent encore béats. Bon, ça va se faire pendant qu'à la canne. Alors, amusez-vous, chers amis, pendant que on vous trucide de l'autre côté. Allez, salut à tous.
Oui, Africa Radio, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'Africa Radio. Moi, mon appel concerne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui va jouer contre le Mali. Vous savez, le Mali a toujours été la bête noire de la Côte d'Ivoire. L'équipe malienne a toujours été la bête noire de la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent tout le temps éliminer la Côte d'Ivoire et ça, c'est le jeu. Au jour d'aujourd'hui, le Mali a une très bonne équipe de jeunes qui ont vraiment envie de prouver qu'ils sont là, ils jouent pour leur pays, ils mouillent le maillot, ils transpirent pour leur pays, qui ont l'amour de leur drapeau, qui veulent bien jouer et remporter la Coupe d'Afrique. Maintenant, aux joueurs ivoiriens, et ne pas sous-estimer le Mali en se disant « ouais, c'est une petite équipe, on peut les battre facilement ». Le Mali a fait cette preuve durant cette compétition. Ils sont premiers de leur groupe et la Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il démarre. Comme on dit, un éléphant avant qu'il atteigne son allure, il part tout doucement et après, c'est après qu'il atteint son allure. Mais il ne faudrait pas que les Ivoiriens sous-estiment. Les footballeurs sous-estiment le Mali. Le Mali, cette année-là, ils ont envie de gagner la Coupe. Et là, ils l'ont bien montré sur le terrain. À nos joueurs maintenant de se concentrer et bien jouer les huitièmes de finale. Voilà, je profite de cette occasion pour dire un grand bonjour à tous mes collègues chauffeurs Toupie, à tous les chauffeurs poids lourds, leur demandant de faire attention sur la route. Et profite aussi de cela pour dire un bonjour à mon ami, Monsieur Diaby Loseni.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le JDA, la Cannes 2019, vos pronostics et analyses du premier tour. Hier, le Bénin, les écureuils du Bénin se sont qualifiés grâce à un troisième match nul. La République du Congo aussi s'est qualifiée. Autre qualifié important, Madagascar qui arrive en tête de son groupe. Il y a aussi dans le groupe C, bien sûr, l'Algérie et le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Mali, la Tunisie. La Tunisie, le Ghana, le Cameroun et le Bénin, on l'a dit, voilà, pour les équipes qualifiées pour, les phases finales de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Quel regard portez-vous sur ce premier tour Quelles sont les surprises? Quelles sont les déceptions? Et quels sont vos pronostics pour les phases finales? On commence tout de suite avec David, qui nous écoute depuis Kisangani, je crois. David, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour Canal Africa.
Bonjour David, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors, vous êtes satisfait de cette équipe de la RDC, les Léopards ?
Notre équipe ne sont pas tellement satisfaits, c'est une équipe qui nous déçoit très souvent. Et je pense que vous êtes témoin, vous avez vu ce qui s'était passé le premier match et le second match. Le niveau de l'équipe n'était pas... n'a pas coïncidé avec les résultats que nous avons vus lors des deux premières journées.
Alors, qu'est-ce que vous attendez pour la suite
Bon, je pense que maintenant, toutes les nations sont prêtes à soulever la coupe, mais toutes ne sont pas capables. Et je sais que notre équipe, la RDC, nous avons certains problèmes que le coach est en train de régler au jour le jour, mais je pense que nous devons encore améliorer pour arriver à battre des nations comme, exemple, si on rencontrait le Maroc, ça ne sera pas facile. Le Madagascar qui a d'ailleurs gagné le Nigeria, tous nous avons vu la performance de cette équipe malgache, elle a très bien joué, et c'est là notre adversaire direct, déjà dès le 8e de finale.
Le 8e, effectivement.
Je pense que... Oui.
Vous avez dit ?
Je pense que nous devons nous préparer à cela et encore en conséquence, parce qu'une équipe qui arrive à gagner les Nigériens est mondialiste. Et on a vu leur parcours lors des éliminatoires, c'était très 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 parfait. Alors pendant que de notre côté, ce n'était que des calculatrices et des calculatrices, je pense que cela est un problème très sérieux. Donc nos joueurs doivent prendre au sérieux le travail et affronter les Madagascar avec une mentalité positive, tout en s'entendant de tout ce qui peut arriver.
Les Baréas de Madagascar. Alors, est-ce que la RDC reste votre favori, David ? Et sinon, quels sont vos autres pronostics ?
Bon, moi, je suis Congolais, je suis Léopard, je soutiens mon équipe. D'accord. Mais je ne pense pas que nous sommes l'équipe favorite de cette compétition. Actuellement, selon moi, le football n'a plus d'équipe favorite. Parce qu'on a vu le Sénégal qui est parti comme favori, mais aujourd'hui, vous êtes conscient de ce qui s'est passé, vous avez vu. Donc actuellement, dans le football, il n'y a pas de favori. Je souhaite simplement bonne chance à mon équipe, à Flora et Bengue. Mais je pense que l'équipe qui reste favorite maintenant... c'est le Maroc du coach Hervé Renard.
Le Maroc du coach Hervé Renard. Hervé Renard qui a déjà fait gagner la Côte d'Ivoire il y a quelques temps, on s'en souvient. Merci David, bonne journée à Kisangani, David, qui reste derrière son équipe, les Léopards, même s'il est conscient des difficultés qui les attendent. On continue de parler de cette CAN avec Symphorien. Symphorien, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, comment allez-vous ?
Ça va bien, bonjour Symphorien. Vous vouliez souligner le nombre de surprises qu'il y a eu lors de son premier tour. On parlait de Madagascar il y a quelques instants.
Oui, Madagascar. Moi, je suis d'origine centrafricaine, je suis dans le sport. J'ai vu les Malgaches jouer depuis un certain temps. Je voulais juste rajouter aux auditeurs que la vidéo a fait progresser d'énormes équipes, beaucoup d'équipes. Le Madagascar joue juste quand on bat le Nigeria à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas anodin, ça a été préparé et c'est l'équipe la plus concentrée. Donc sortir de ce groupe-là, c'est une équipe, moi j'ai misé sur elle et je vous assure, le Madagascar va poser beaucoup de problèmes à la RDC en 8e et le Madagascar, je les souhaite en quart de finale, ça sera la révélation de cette Coupe d'Afrique. Et à ça,
quand vous parlez de vidéo, Symphorien, pas de vidéo en général, hein, pas de VAR, hein, puisqu'il n'y avait pas de VAR au premier tour.
Non, oui, voilà, je parle de vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage des équipes africaines qui sortent un peu de l'ombre, c'est qu'on voit les grosses écuries, le Ghana, tout ça, on sait, quand on les voit jouer contre l'Allemagne, tout ça, on connaît. On sait les attaquants, tout ça. Et ben, quand on travaille ces attaquants, tout ça, avec la vidéo, ben, regardez ce que les Malgaches ont fait. Ils vous diront jamais. Mais moi, je sais que la vidéo, on étudie son adversaire avec la vidéo, ce que beaucoup de joueurs africains, je dis même les joueurs, pas les coachs, négligent. Même les joueurs africains négligent la vidéo. Vous voyez, il y a trop d'erreurs, de marquages, il y a trop d'espace, tout ça. Voilà, voilà l'exemple. Le Madagascar, je souhaite qu'ils aillent quand même un peu plus loin. C'est un très beau jeu, et quand on sort le Nigeria, c'est pas pour rien.
Et voilà. Est-ce que vous avez une autre surprise de ce premier tour?
Ben, les autres surprises de ce premier tour, pas vraiment, parce qu'en fin de compte, il y a les équipes qui ont gagné. Le Mali, ouais, autant pour moi, le Mali, voilà. Mmh. Le Mali, j'en reviens. Il y a le Mali qui a fait un parcours sans faute, concentration. Le Mali va poser beaucoup de problèmes à la Côte d'Ivoire. Et le Mali, si les Ivoiriens ne sont pas concentrés, ils jouent pas leur meilleur niveau, le Mali va pouvoir passer. Parce que quand on prend déjà trois matchs d'affilée, il y a le Mali aussi qui a gagné ses trois premiers matchs, le Maroc, je crois, l'Algérie et l'Égypte, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Moi, j'ai quatre équipes qui sortent du lot. Voilà,
au premier tour. Madagascar, Mali, Algérie, Égypte. Voilà. C'est ça vos quatre équipes?
Oui, Algérie, Algérie, Égypte et Maroc, je rajoute.
Oui,
Maroc. Avec le renard le plus rusé de tous les entraîneurs. Donc voilà, voilà, j'ai ces cinq équipes-là en tête. Et mon champion, il est dans ces cinq équipes. Au moins, parce que le problème du Ghana, du Cameroun, toutes ces équipes qu'on a l'habitude de voir, elles jouent sur leurs acquis, leurs expériences. Et puis, certaines, je dis bien certaines, ont tendance à négliger un peu les équipes contre lesquelles elles n'ont jamais l'habitude de jouer.
Ouais, mépriser, ouais, voilà, de dire bon tiens, c'est une petite équipe et du coup se faire avoir.
Et voilà, et ça c'est souvent le problème des joueurs professionnels en Europe qui font un peu des calculs, il faut dire les choses comme elles sont. Les joueurs ne veulent pas se blesser, les joueurs se disent tiens, on va faire des calculs, et ben c'est fini ça, cette époque est finie. Voilà, voilà mon avis.
Merci Symphorien de votre participation au JDA. J'ai noté vos cinq favoris. Il y en a trois qui commencent par la lettre M. On pourrait s'avancer en disant peut-être que le vainqueur de la CAN, le pays vainqueur, commencera par la lettre M. C'est moi qui m'avance. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Merci Symphorien. On continue à parler de ce premier tour et des phases finales qui arrivent. Alors justement, j'évoquais la VAR dans quelques instants. Je crois que c'est à partir des huitièmes de finale que la vidéo assistera l'arbitrage. Alors est-ce que ça va changer quelque chose? On va demander dans l'an dernier, Youssouf. Youssouf, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Youssouf, merci de votre patience. Pareil, vous avez été impressionné par les Baréas de Madagascar.
Vraiment indoutable. Un vrai match des professionnels. Quand j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin, j'ai dit bravo Malgache. C'est la première fois que j'ai regardé un match. Une équipe qui marque, qui a déjà 10 buts d'avance, et qui cherche encore du but jusqu'à la fin de match, c'est la première fois. Au contraire des autres, dès qu'ils marquent un but ou deux buts, ils restent derrière. Et les Malgaches l'ont fait le contraire. Et bravo. Et moi, je vois ces Madagascar-là jusqu'à la finale. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que les joueurs professionnels qui sont là, qui jouent partout en Europe, faut qu'ils mettent de quelque chose dans leur tête. Bon, il y a des équipes qui sont parties, ils vont jouer pour leur drapeau. Ils s'en foutent de pognon, c'est pas leur problème. Donc, les Malgaches, ils l'ont montré à tout le monde. Ils sont là pour jouer. C'est leur première participation. J'ai leur souhaite, au fond de mon cœur, de gagner cette coupe-là par rapport à ce que je vis, ce qui s'est passé sur le terrain.
Est-ce que, justement, comme c'est leur première participation, ils n'ont pas cet enthousiasme de la jeunesse, justement? Ils donnent le meilleur d'eux?
Non,
d'autres équipes qui étaient plutôt blasées. Est-ce qu'il n'y a pas une fraîcheur comme ça dans l'équipe de Madagascar?
Voilà, ils montrent leur combien de participations à cette CAN et qui sont là et qui portent ces statuts-là. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut jouer, il faut être sur le terrain qui est là pour jouer. C'est tout. Mais le Malgache, ils l'ont montré contraire. Moi, je ne suis pas un Malgache, je suis un Sénégalais. Donc, quand je vois tous les matchs qui s'est passé entre les Malgaches, pendant l'éliminatoire avec le Sénégal, presque le Sénégal, ils l'ont gagné presque tous les matchs. Mais quand je vois aujourd'hui ces Madagascar-là qui fait vraiment un boulot magnifique, et franchement, j'ai adoré. Franchement, j'adore. Je leur souhaite vraiment le coup au fond de mon cœur par rapport à ce qu'ils ont fait contre le Niger.
Donc vous soutenez le Madagascar et pas le Sénégal, Youssouf. On est d'accord.
Mais les Sénégalais, son comportement, dès qu'ils marquent un but, oh là là, c'est fini. On est peinard. Et ils restent derrière. Et voilà. C'est pas ça le foot. Ça fait combien d'années, ça fait combien de participations le Sénégal en coupe d'Afrique?
Excusez-moi, Youssouf, je rigole parce que du coup vous avez tous les Sénégalais de la maison qui vous écoutent attentivement, qui font leur éruption dans le studio et qui voulaient dire un petit mot. On va accueillir Salah Eddine Gakou s'il me laisse le temps d'ouvrir son micro. Voilà, 1, 2, 3, Salah Eddine, vous êtes là?
Oui, je suis là. Voilà. J'ai pas compris. Les Sénégalais, quand ils marquent, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, ils arrêtent de jouer, disait Youssouf. Ils sont trop réticents.
Voilà, ils sont peinards. Dès qu'ils marquent un but, ils sont peinards.
Ça nous a réussi jusqu'à aujourd'hui, non?
Mais c'est pas ça le foot.
Ah bon, c'est pas ça le foot.
Dès que tu commences.
On est la première nation africaine, 22e au classement FIFA.
Écoute-moi, on s'en fout des déclassements.
Ah, mais ça compte.
C'est les stades où on va voir la preuve.
Ça compte.
Voilà, ça compte pas pour moi. C'est sur les terrains qu'on voit. Voilà, il faut
travailler. Alors, Youssouf, bon, on va être quand même...
Sénégal a marqué 5 buts en 3 matchs. C'est plutôt pas mal pour une équipe qui arrête de jouer après avoir marqué un but.
Non, moi, je parle de leur comportement. À chaque match, dès qu'ils marquent un but...
La niaque, c'est ce que vous dites.
Non, ils sont un peu dans la gestion. C'est ça que vous leur reprochez? Ils sont un peu dans la gestion, c'est ça?
C'est pas... Voilà. Quand il regarde ce qu'il a fait malgache.
Allez, comparez à Madagascar.
On n'a pas le même statut.
Alors, merci Youssouf, merci oui. Beaucoup d'avoir participé. On va retrouver William, justement, pour qui le Sénégal est favori. William, bonjour. Vous avez vu, hein.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs et à Salah Eddine Gakou aussi, oui.
Ah oui,
bonjour William.
Sénégal, Salah Eddine est là. Oui. Mais Salah Eddine observe avec beaucoup de neutralité l'évolution de toutes les équipes, je tiens à le préciser.
Merci beaucoup de le préciser, merci Stéphane.
Oui, c'est bien, mais dans le fond, on sait qu'il est le Sénégal, mais moi je ferai autant. Donc je dirais ceci, moi, en fait, la CAN, ça a bien commencé, comme je dis au standard, ça a bien commencé, il n'y a pas eu d'incident déjà, c'est bien, c'est parce qu'il faut aussi souligner de ce côté-là, sécuritaire, c'est bien. Et il y a eu des surprises, franchement, des grandes surprises et qui ont encore donné ce goût du sport, du sport, du football qui est beau à voir. Donc en parlant de Madagascar, parce que si on ne parle pas de Madagascar, c'est comme si on n'a pas regardé la première partie. Donc ça, c'est l'espoir à saluer à 200% ce qu'ils ont fait.
C'est vraiment
extraordinaire. Ah non, c'est extraordinaire ce qu'ont fait les Malgaches. Il faut pas, franchement, il faut leur dire le chapeau. Maintenant, moi, je suis Congolais de Brazzaville, c'est vrai, mais j'ai mon équipe depuis très longtemps, c'est mon équipe de cœur, c'est en dehors des Diables Rouges, bien sûr, c'est le Sénégal. Donc moi, c'est le Sénégal, et le Sénégal, tout ce que je voudrais dire, moi, pour le Sénégal, c'est qu'ils prennent maintenant conscience que là, c'est maintenant un tout à élimination directe. Et là, il n'y a plus des grands, il n'y a plus des petits, tout le monde voit déjà la coupe, c'est comme si c'était déjà devant eux, donc il faut la prendre. Donc, on joue le tout pour le tout, il faut mouiller le maillot. Donc, je suis confiant pour le Sénégal parce que le dernier match du Sénégal, ce qu'a fait l'attaque sénégalaise, c'est déjà une partie de la confiance qu'ils ont pris. Parce que Mané a fait un doublé, et non seulement son doublé, il a raté le pénalty, et il y a eu un deuxième pénalty, il a pris ses responsabilités, il dit je vais tirer, et contrairement à
Aliou Cissé, il ne voulait pas qu'il tire le deuxième pénalty.
Il ne voulait pas, en tant que grand joueur lui aussi. Il sait, des fois, on peut répéter l'erreur. Mais Sadio a dit, moi je suis un grand, il faut que je le fasse. Et il a fait ça, j'étais tellement content. Et Ismaël Assar a marqué. Donc ça veut dire, du côté offensif, maintenant ça va. Parce que la défense, j'ai pas peur. Le gardien est bon, quand on voit les qualifiés, tout ce monde-là, ils sont bons, les Djata. Donc moi, je voudrais dire que Mba Nyong, il faut maintenant qu'il nous démontre ce qu'il a.
On va pas revenir sur le détail, on va évoquer avec d'autres auditeurs, on arrive presque à la fin, mais voilà. Un petit mot, maintenant, William, sur l'affiche Ouganda-Sénégal,
oui,
confiant?
Effectivement, voilà, ça c'est une bonne question.
C'est pour
l'Ouganda, c'est une équipe très très joueuse, donc c'est de là que le Sénégal doit faire très attention, parce qu'ils ont fait mal à la RDC, on a vu comment ils sont qualifiés, donc c'est des joueurs qui n'ont pas vraiment des grands noms, mais qui savent manipuler le ballon. Donc ils vont faire courir, ils vont faire jouer, ils vont jouer techniquement. Donc le Sénégalais va faire de leur mieux, de leur contenir, de leur mettre dans un sac, pour qu'il ne bouge pas. Et voilà, qu'ils en profitent, parce qu'il faut que le Sénégal prenne cette coupe. Ça, c'est mon favori, et c'est mon équipe. Donc, je dirais, allez les Lions de la Teranga.
Merci.
Prenez la coupe, ramenez au Sénégal et on sera tous heureux.
Merci, voilà. William. Merci beaucoup.
Merci, William. Il y a Ibé qui nous dit sur WhatsApp, moi, j'ai l'impression que les grandes équipes jouent avec le frein à la main. On aurait dit qu'elles ont peur, contrairement aux petites équipes, comme par exemple Madagascar. On attend de voir les huitièmes de finale. Salah Dingaku, un mot sur l'affiche Ouganda-Sénégal. Ce n'est pas joué d'avance pour les Sénégalais.
Non, on a vu dans cette compétition qu'il n'y avait pas de petite équipe. Donc, aux Sénégalais d'imposer leur rythme, tout simplement. Attention sur les coups de pied arrêtés. Les Ougandais sont très bons. Ils l'ont montré contre la RDC notamment. Mais le Sénégal est favori, même si ça ne veut plus dire grand-chose dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à eux de prouver qu'ils sont... à eux d'assumer leur statut. Ils sont dans une bonne partie du tableau, parce qu'il y a la deuxième partie du tableau où c'est vraiment l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria. Donc il y a une autre partie, le Sénégal, dans une partie plus abordable, on va dire. Donc à eux d'aller au bout. 4 matchs, 4 victoires, c'est le titre assuré. Mais il y a beaucoup d'équipes, il y a 16 équipes qui rêvent de ce titre continental, forcément.
On va suivre. Merci beaucoup, Salah Dingaku, pour ces éclairages. Il y a Abdoulaye qui nous dit le Sénégal n'est pas favori, il faut qu'il se donne plus. On va écouter Jean avant de conclure cette émission. Jean, bonjour.
Oui, bonjour la sœur Atman, bonjour.
Merci, votre patience, Jean. Vous dites que la CAN est partagée en 3 parties, avec des styles de jeu différents.
C'est-à-dire, c'est une observation, je dirais que la CAN est repartie en 3 parties. La première partie, c'est on voit les équipes du Maghreb, du nord de l'Afrique, du Maghreb, qui ont leur système de jeu. Et la deuxième partie, c'est l'Afrique occidentale, c'est-à-dire à partir
de... l'Afrique de l'Ouest.
Oui, l'Afrique de l'Ouest, c'est justement l'Afrique de l'Ouest. Bon, maintenant, le plus décevant, c'est l'Afrique australe. Je me suis posé même la question, comment des équipes comme le Burundi, la Tanzanie, le Zimbabwe ont pu éliminer le Congo-Brazzaville, l'Angola également, et c'est surtout l'Afrique du Sud qui est habituée à la CAN. Plus de 4 fois, ils n'ont jamais changé de système. Ils ont un football de feinte qu'on appelait à l'époque de feinte, des dribbles, tout cela, mais peu de tirs sur 90 minutes, peut-être 2 tirs au goal. Donc, ils doivent savoir que le football a changé. C'est très décevant. On se pose la question, comment ils ont pu éliminer certaines équipes. Et pour terminer, excusez-moi, un petit message pour le Congo-Brazzaville, comme mon prédécesseur l'a dit. La pauvre, le Congo-Brazzaville, vraiment, ça fait pitié. Près de 40 ans qu'on n'entend plus parler du Congo-Brazzaville dans la CAN, près de 40 ans. Pourquoi ? Parce que c'est la politique qui se mêle, c'est la politique qui vient imposer...
Et les difficultés économiques, Jean, aussi, du pays.
Ça n'a rien à voir.
Parce qu'ils ont annulé, c'est pas sur le football, mais sur d'autres sports, ils ont annulé leur participation à plusieurs compétitions par manque de moyens.
Mais ça, c'est arrivé après, mais avant, moi, je vous dis que ça fait bientôt près de 40 ans. De près de 40 ans qu'on avait obtenu, c'est-à-dire notre coupe au Cameroun. Le Congo-Brazzaville, c'est l'improvisation, c'est la politique qui se mêle, c'est l'argent qui disparaît, c'est de n'importe quoi. On fabrique une équipe qu'on vient ramasser des joueurs qui jouent dans les divisions d'honneur, dans des coopératives, des trucs comme ça qu'on appelle des professionnels en Europe, alors qu'on pouvait faire confiance aux gars qui sont sur place, les locaux qui sont sur place, de les former. Je voudrais entendre le Congo-Brazzaville prochainement. Je voudrais entendre le Congo-Brazzaville, ça fait pitié.
Et qu'on enlève ce nom. Peut-être dans 2 ans.
Qu'on enlève ce nom de Diable Rouge. Diable Rouge, c'est insignifiant. Diable Rouge, qu'on donne la parole aux jeunes de voter un nom.
Vous les auriez appelés comment ?
Moi, je pourrais proposer, on peut les appeler parce que nous avions tous les crocodiles et tout ça, mais on ne peut pas éviter. Pour éviter la répétition des lions, des éléphants, on peut appeler ça les mangoustes du Congo, on peut appeler ça les molokos du Congo parce que nous savons qu'est-ce que c'est. On peut appeler les diables rouges. Tout était rouge il y a des années 60-70. Tout était rouge, les carrefours étaient rouges, les lycées étaient rouges, les marchés étaient rouges.
Oui, donc, c'est la référence au communisme.
Mais bien sûr, donc qu'on enlève ce nom-là et de prendre la responsabilité parce que tôt ou tard, qu'on entende au moins la star et donner la possibilité, même si nous sommes absents, donner la possibilité à tous les jeunes congolais, même dans les villages, de leur donner des groupes, de tout cela, de suivre le match. Et non de donner seulement, et de couper le courant parce qu'on leur prive de tout. La jeunesse congolaise de Brazzaville est pauvre, malheureuse.
On a des vies, on arrive à la fin de l'émission, mon cher Jean, mais on espère aussi pour vous que le Congo, l'équipe du Congo, oui, c'est les Diables Rouges, puisse un jour faire la CAN. On va terminer rapidement, Bush, en 20 secondes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, bouge-vous, c'est la RDC votre favori.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Voilà. Enfin,
c'est pas le grandissime favori, mais ça peut être l'un des favoris vu leur parcours qu'ils ont eu, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est que le premier match, bon, ça a été super compliqué. On a tous vu que ben, les gars, ils étaient à la ramasse. Mais au deuxième match, ils se sont vraiment très bien repris face à l'Égypte. Et ça, tous les commentateurs l'ont souligné, c'est que ils ont vraiment très bien joué. L'Égypte n'a pas vu le jour tout le match. Ils s'en sont sortis grâce ben, à leur meilleur joueur en attaque et puis surtout un très bon c'est gardien. Clair. Et au troisième match, on a vu que... bon
contre le Zimbabwe, gardien, hein, effectivement, hein, qui a conduit à une victoire 4-1, je pense, de la RDC. On continue de suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien sûr sur Africa Radio. À demain.